Daniel 10 dans vos Bibles, donc c'est à la page 578. Daniel 10, la page 578. Et avant de lire le passage, je vais prier. Prions. En effet, notre Père, enseigne-nous ce matin. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'être nourris par ta parole. Nous avons besoin de te voir dans ta parole, d'être rassasiés de ta connaissance. Père, nous allons te demander de nous faire paître par cette parole, de nous conduire vers toi, de nous conduire à la repentance et à la foi, la joie en toi. Et Père, je te demande de m'aider aussi dans l'explication, dans l'annonce de cette parole. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Daniel 10, verset 1. La troisième année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'étais 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient parés à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'étais le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux. Ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis trouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de ses mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un avait une apparence humaine, qui avait une apparence humaine, a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et je me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur !» J'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur ? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Voici la parole de Dieu. Alors, le poids du mal peut sembler parfois accablant. J'imagine pour les chrétiens en Corée du Nord, dans ces camps de concentration, que le poids du mal peut parfois, ou peut-être toujours, sembler accablant, trop. On peut penser aussi à ces chrétiens en butte à ces atrocités de Daesh aussi. En plus, ce mal semble si irrationnel. Il s'acharne contre les faibles. Rien ne le contente. Il est irascible. Dans une moindre mesure, ou peut-être sur une échelle différente, nous, on peut également avoir l'impression parfois que le mal, que des choses néfastes, des combats, tombe sur notre tête sans cesse, de manière accablante. Alors c'est vrai, ça dépend des personnes peut-être. Mais parfois on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? Pourquoi moi? Pourquoi ça tout le temps? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, ce passage ce matin va nous donner un aperçu d'un autre monde, d'une autre réalité, qui si souvent nous échappe. Il y a quelques semaines, c'est à partir du chapitre 8, on a dit qu'un homme averti en vaut deux. Parce que si on connaît l'avenir, on est mieux préparé pour tenir bon. Alors c'est à peu près la même logique qui est à l'œuvre ici dans ce passage, mais c'est pas l'avenir qui est en jeu. Ça, c'est ce qu'on va voir la fois prochaine, dans deux semaines, trois semaines, après les vacances. Cette fois-ci, c'est plutôt le fait de voir cet autre monde, cette autre réalité. C'est ça ce qui nous avertit. Et si on comprend ça, on va être équipé pour tenir bon dans l'épreuve. Alors, ce chapitre 10 est en réalité l'introduction à la vision. Cette vision, c'est au chapitre 11 et au chapitre 12. Et là, Daniel nous a donné une introduction assez longue à cette vision. Ces chapitres, à la fin de ce livre, vont nous montrer comment faire face à l'avenir. Ce livre nous a montré l'image, nous a montré Dieu dans toute sa souveraineté. Il nous a montré également les luttes, les conflits, et surtout ce combat entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Et cette vision de Dieu, c'est ce qui va nous aider à tenir bon dans ces combats. Au verset 1 de ce chapitre 10, on lit « La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. » Donc là encore, on est dans ce thème de cette lutte acharnée entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Et comme on l'a vu dans les passages précédents, sans doute ce combat implique une grande souffrance, surtout pour le peuple de Dieu. Donc ce chapitre va nous parler de la guerre, d'un conflit gigantesque qui va nous couper le souffle. Et dans les semaines qui vont venir, on va voir à quoi ce combat ressemble sur notre terrain, sur le terrain terrestre. Alors ce matin, j'ai trois points. D'abord, un combat. Ensuite, un champion. Et finalement, une arme. Donc si vous prenez des notes, c'est 3 points, un combat, un champion et une arme. Parce que cette vision parle d'un combat. C'est ce que le verset 1 nous a dit. Mais la suite de cette vision nous montre qu'il s'agit d'abord et avant toute chose d'un combat spirituel, céleste. Oui, ce combat a des ramifications dans l'histoire humaine, c'est ce qu'on va voir surtout la fois prochaine. Mais il y a un combat spirituel, céleste. Et Daniel, et donc Dieu, veut que nous en prenions conscience. Daniel nous explique au verset 4 et 5 que lorsqu'il était au bord de ce fleuve, le Tigre, après plusieurs semaines de jeûne et donc de prière, il a eu cette vision extraordinaire. Il a eu cette vision d'un homme. Un homme tout à fait extraordinaire. Alors on va revenir dans un instant sur à l'identité de cet homme. Mais j'aimerais que nous voyions d'abord qu'il s'agit d'un guerrier. Un guerrier qui vient du combat. Au verset 12 et 13, nous lisons, il m'a dit, cet homme a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. » 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Cet homme vient du combat. Il vient de lutter 21 jours contre le chef ou contre le prince de Perse. Et avec l'aide de Michel ou Michael, cet ange, c'est un ange. Ensuite, on voit qu'il a été auprès des rois de Perse. Alors c'est vrai, c'est étrange. Tout ça, c'est curieux. Et ensuite, un peu plus loin, au verset 20, nous voyons qu'il va retourner au combat. Verset 20, il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, le prince de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce ou le prince de la Grèce viendra. » Alors cet homme évoque des royaumes humains, la Perse, la Grèce. Mais il semble révéler une autre réalité, une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle dans laquelle il est impliqué, engagé. C'est une lutte. Et ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux. En fait, avec nos yeux, nous ne voyons pas la totalité de la réalité. Dieu nous montre par cet homme, par Daniel, par cet écrit, par ce livre, qu'il y a une réalité spirituelle, une lutte spirituelle. Il semble qu'il y a un combat acharné entre puissances spirituelles qui se donne à voir, partiellement en tout cas, dans les combats entre royaumes terrestres. Parce que ce prince de la Perse n'est pas le roi de Perse. C'est plutôt un ange, ou un démon peut-être. En tout cas, cet homme glorieux qui vient de Dieu s'oppose à lui. Il lui résiste. Cet ange ou ce démon de Perse semble être derrière cette nation, ou il semble influencer, ou il essaye d'influencer cette nation. Cet homme venu de Dieu, appuyé de Michel ou Michael, cet ange qui est le prince du peuple de Dieu, selon le verset 21, a combattu cet ange de Perse. Si bien qu'au verset 1 du chapitre 11, il a eu une victoire. Il y a le roi Darius, le Mède, qui a fait du bien au peuple de Dieu. Donc Daniel, Dieu par Daniel, veut que Daniel et ceux qui lisent son livre, y compris nous ce matin, prennent conscience qu'il y a un vrai combat spirituel dans les lieux célestes, contre les puissances qui sont en guerre contre Dieu et contre son peuple. Alors la Bible ne focalise pas trop sur ce combat spirituel, mais la Bible est loin de l'oublier. Dès le Jardin d'Éden jusqu'aux pages du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la Bible parle de la réalité de cette lutte, de cette guerre spirituelle, cette opposition forte, spirituelle, maléfique à l'égard de Dieu, à l'égard de son peuple. Jésus-Christ lui-même, dès qu'il a commencé son ministère, était en butte aux attaques, aux tentations du diable. Il y a résisté fortement. Et ensuite, dans son ministère, on le voit en guerre contre le mal, le malin, la maladie, la mort. Judas a-t-il poussé par le diable lui-même pour trahir Jésus? Jésus, sur la croix, semblait être vaincu par la mort, par le diable. Mais c'est en vainquant la mort que, justement, il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort en payant le prix pour nos péchés sur la croix. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous montre la fin de cette lutte, la fin de cette guerre spirituelle, la défaite totale du diable, la victoire totale de Dieu. En tant qu'hommes et femmes occidentaux, on n'est pas forcément très à l'aise avec cette vision spirituelle des choses. Notre société se veut rationaliste. Elle considère une telle vision de la réalité comme obscurantiste. Ceci dit, en enlevant la réalité spirituelle de cette lutte de l'équation, elle a parfois du mal à comprendre la réalité. Cette semaine, ce jeune homme qui s'est tiré une balle dans la jambe, je pense, voulait s'attaquer aux églises parisiennes ou en banlieue. Qu'est-ce qui est derrière une telle idéologie mortifère? Nous avons commémoré le triste 100e anniversaire du génocide arménien. Il y avait 1,5 million d'Arméniens qui sont morts. Qu'est-ce qui a conduit une nation laïque, je pense, à cette époque? Qu'est-ce qui a conduit cette nation à faire ça? La haine qui a animé la pensée d'Hitler a aveuglé un peuple européen pendant un bref moment et a conduit à l'Holocauste. On est loin du rationalisme. L'homme est aussi spirituel, il y a un combat spirituel à l'œuvre. Et Dieu veut que Daniel et que ceux qui lisent son livre, y compris nous ce matin, en prennent conscience. Il y a un vrai combat spirituel dans les lieux célestes. Et nous avons besoin de comprendre ça si on va tenir bon. L'apôtre Paul nous dit sensiblement la même chose dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit au chapitre 6, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous avons besoin d'ouvrir l'œil et de comprendre qu'il y a vraiment une lutte, une guerre spirituelle. Après la réalité du combat, Dieu veut nous montrer que nous avons un champion. C'est notre deuxième point ce matin, un champion. Par cette vision, Dieu veut montrer à Daniel et à ses lecteurs que dans ce combat, c'est Dieu lui-même qui combat en faveur de son peuple. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui est le champion. Alors revenons à cet homme mystérieux qui apparaît dans la vision de Daniel. Daniel est là, à côté du fleuve, le Tigre, verset 5. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'uphaze. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient parés à des flammes de feu. Ses bras, ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Et on voit que Daniel est resté bouche bée, silencieux, atterré. Il dit, je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais on voit On comprend l'image. Et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Ça nous rappelle un peu Saül sur le chemin de Damas. C'est lui seul qui a vu la vision. Mais la frayeur s'est emparée des autres aussi. Alors, qui c'est cet homme? Qui c'est cet homme qui est apparu, qui lui a parlé? On va voir un peu plus après les vacances la vision qu'il a donnée à Daniel. Mais qui c'est cet homme envoyé par Dieu? Est-ce un ange de Dieu? Est-ce Dieu lui-même? Ou est-ce Jésus-Christ même? Peut-être Jésus-Christ avant son ministère terrestre, avant l'incarnation. Alors la réponse simple, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas. En faveur de ceux qui pensent que ce n'est pas Dieu ou ce n'est pas Jésus, il y a le verset 13, nous lisons que Michel est venu à son aide. Certains se disent, s'il s'agit du Dieu souverain, pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'aide de Michel? Mais en même temps, ce personnage, cet homme, est quand même glorieux, habillé de lin, une ceinture en or. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient parés à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Le son de sa voix parait au bruit d'une grande foule. Et le lin lui rappelle, dans l'Ancien Testament, les vêtements des prêtres. Cette chrysolite, cette pierre précieuse, était également incrustée dans le pectoral du prêtre. Elle était aussi dans le jardin d'Éden. Et aussi dans la vision qu'Ézéchiel a eue de Dieu, du trône de Dieu, des roues de son trône. Les éclairs sont souvent attribués à Dieu lui-même. Alors plus loin dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous décrit la vision qu'il a eue de Jésus lui-même. Il a décrit ainsi, c'est l'apôtre Jean qui parle, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Très clairement, il y a des similitudes entre ces visions. C'est pas une coïncidence, je pense. Donc, pour ma part, je suis tenté, sans vraiment savoir exactement, je suis tenté de penser que peut-être cet homme-là, que Daniel a vu à côté du fleuve, était peut-être Jésus-Christ avant son incarnation. Je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être le cas. On voit aussi dans la suite de cette vision que Daniel a eue, que cet homme, lorsque Daniel était atterré, l'a touché et l'a fortifié. Tout comme Jésus a fait pour Jean dans sa vision. Verset 18 de Daniel 10, « Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur. Homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. » C'est ce que Jésus a dit aussi après sa résurrection. En tout cas, les paroles de cet homme ont fortifié Daniel. Parce que Daniel avait besoin d'être fortifié pour voir la vision, mais aussi pour tenir bon dans la durée. C'est la grâce qui est à l'œuvre pour Daniel. Alors avant de nous donner la vision de l'avenir, d'un combat à venir qui va avoir lieu à l'avenir, Dieu donne cette vision de lui-même. Dieu donne une vision de lui-même, je pense, à Daniel, pour le fortifier. Il veut nous montrer aussi, que lui, le Dieu souverain, est aussi avec son peuple. Lui qui est notre prêtre est bien présent. Et dans la suite du passage, nous voyons que cet homme qui s'est révélé à Daniel, qui a fortifié Daniel, est reparti au combat. C'est lui qui est retourné à la bataille céleste. C'est lui qui, au premier verset du chapitre 11, a fait « Vienne, remporte la victoire à Babylone ». Et ça, c'est ce qui a conduit à la libération du peuple juif. C'est ça ce qui a permis le retour de l'exil. Donc, Dieu est en train de montrer à Daniel, dans cette vision, une vision de lui-même, il est en train de lui montrer que c'est lui, Dieu, qui combat pour son peuple, qui a permis au peuple juif de revenir de l'exil. Alors, c'est une illustration un peu décalée, j'en conviens. Il y a quelques semaines, je suis allé voir le film American Sniper, tireur d'élite américain. C'était l'histoire vraie d'un tireur d'élite pendant la guerre d'Irak, un homme baraqué, dur, discipliné, très très compétent, qui se mettait sur les toits pour protéger les Marines lorsqu'il passait de porte en porte dans un dur combat à Fallujah pour dénicher l'ennemi. Et ces Marines, ces soldats américains étaient rassurés, confortés, parce qu'ils savaient qu'au-dessus de leur tête, il y avait ce tireur d'élite qui était là pour les protéger. Alors c'est une illustration complètement décalée parce que, bien sûr, Dieu n'est pas un tireur d'élite. C'est pas ce genre de combat non plus, un combat très discutable. Mais Dieu est bien au-dessus de nous. C'est lui vraiment le meilleur. Cet homme américain, ce soldat n'était qu'un homme faillible. Le film l'a bien démontré. Mais par cette vision ici, dans Daniel 10, Dieu nous montre qu'il est vraiment le plus fort, qu'il est vraiment le guerrier qu'il nous faut, qu'il est là au-dessus de nous. Il est beaucoup plus fort que l'ennemi et qui se bat, il part au combat pour son peuple et qu'il a déjà permis à son peuple de revenir de l'exil. Il a veillé souverainement sur ces événements. Et Dieu montre à Daniel que c'est lui Dieu, le champion de son peuple. C'est lui qui remporte les victoires. Et comme Daniel, nous aussi, nous avons besoin de voir Dieu. On a besoin de le connaître dans toute sa gloire resplendissante. Nous avons besoin de voir qu'il est bel et bien souverain. Tout ce livre nous l'a montré. Il est souverain. Il est au-dessus du mal, beaucoup plus fort que le mal, bien supérieur. Et en plus, il est bon. Il est bienveillant. Il ne nous lâchera pas. Il est notre prêtre qui nous fortifie, qui enlève nos péchés. Alors si on ne le voit pas, si on le perd de vue, si on l'oublie, on sera affaibli. On sera incapable de résister. Dans le chapitre suivant, au chapitre 11, il y a un verset qui peut-être résume l'application de ce livre de Daniel. Au chapitre 11, nous lisons « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Il nous faut cette connaissance personnelle de ce Dieu souverain qui part au combat pour son peuple et qui vainc ses ennemis. Nous avons besoin de voir, de connaître Jésus-Christ, notre champion. Nous savons qu'il est notre champion parce qu'il est allé jusqu'à la croix. C'est là qu'il est allé s'en découdre avec le mal et le malin. Il a fait en portant sur lui le châtiment pour les fautes de son peuple. Il a fait pour payer le prix pour que la mort, le juste châtiment que nos fautes méritent, pour que la mort n'ait pas le dernier mot sur nous qui mettons notre confiance en Jésus. En faisant ça, il a satisfait la justice de Dieu. Si bien que la mort n'a plus le dernier mot. Si bien que Dieu l'a relevé des morts. Dieu lui a rendu justice. Et nous avec lui, nous qui avons mis notre confiance en lui. C'est là qu'il a défait notre ennemi ultime. C'est là qu'il a défait notre ennemi une fois pour toutes. Nous savons d'ores et déjà que même si ce combat persiste, et chapitre 11 va nous montrer que oui, le combat persiste, la vie chrétienne est un combat. Nous savons que ce combat, cette victoire a déjà été remportée en Jésus-Christ à la croix. Face à l'histoire mouvementée à venir, peut-être face à des vies où c'est mouvementé. Lorsque ce combat spirituel est rude, nous avons besoin d'avoir cette conviction-là, de connaître notre Dieu. De voir Jésus dans toute sa splendeur. De voir, comme Alex a prié tout à l'heure, de voir que la croix a vraiment remporté, ce que Jésus a fait à la croix a vraiment remporté la victoire. Et que c'est notre champion qui l'a fait. C'est lui seul qui l'a fait. Seul. C'est que lui qui l'a fait. Mais dans ce combat, est-ce qu'il y a quand même un rôle pour nous? Ou est-ce qu'on est juste complètement passif derrière notre champion? C'est clair que c'est que lui qui vainc l'ennemi. Que lui. Mais comme nous voyons dans la vie de Daniel, les saints, les justes, ceux qui ont mis la confiance en Dieu, s'activent. Ça faisait 3 semaines que Daniel jeûnait. C'est ce qu'on voit au verset 2. Et au verset 12, cet homme mystérieux fait mention de ses prières insistantes, persistantes. C'est la prière qui est notre arme. Voilà notre dernier point pour ce matin. Le combat, ensuite le champion, et puis notre arme. Et c'est la prière. Et nous avons vu Daniel au train de prier. Au chapitre précédent, il a intercédé auprès de Dieu pour que Dieu, comme il avait annoncé par la bouche du prophète Jérémie, accomplisse ses promesses, que les promesses de Dieu s'accomplissent, que le peuple, que l'exil du peuple prenne fin. Et cette promesse est bel et bien accomplie. Parce que le verset 1 nous dit que nous sommes à la 3e année du règne de Cyrus. Et nous savons, du reste de la Bible, que c'était lors de la première année de son règne, que ce roi a fait un édit qui a permis au peuple de Dieu de revenir sur ses terres, de revenir à Jérusalem, c'est le livre d'Esdras et de Néhémie qui nous le raconte. Alors si le peuple est déjà rentré, en tout cas ceux qui souhaitaient rentrer, si le peuple est déjà rentré, pourquoi est-ce que Daniel est encore sur ses genoux? Pourquoi est-ce qu'il est dans la prière? Cette prière si fervente, pourquoi est-ce qu'il jeûne? Il jeûne de manière si intense. Encore une fois, le texte ne nous donne pas une réponse simple ou claire. Nous savons, par contre, que le peuple revenu de l'exil passait par des moments très difficiles. C'était vraiment pas facile au début. Il se peut que Daniel ait été dans l'intercession pour le peuple à Jérusalem. Daniel lui-même n'était pas rentré. On ne sait pas exactement pourquoi Daniel n'est pas rentré. Peut-être c'est parce qu'il était un homme très âgé. Il avait peut-être plus de 80 ans à cette époque. J'imagine que le voyage pour y aller a été difficile. Mais en même temps, on ne sait pas exactement pourquoi il n'est pas rentré. Peut-être il pensait que sa place était derrière, dans les coulisses, peut-être auprès du roi perse. Parce que c'est là qu'il pouvait prier pour son peuple. En tout cas, on voit du chapitre précédent que Daniel savait à quel point la prière est importante. C'est pas que la prière en elle-même change les choses. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Mais dans sa souveraineté, Dieu daigne se servir des prières des justes pour accomplir ses desseins souverains. La prière, c'est cette humble confiance en Dieu. C'est cette humble demande à Dieu d'accomplir sa propre volonté, et ça pour sa gloire. Daniel, on l'a vu la fois dernière, puisqu'il connaissait son Dieu, puisqu'il connaissait sa volonté, Dieu l'avait déjà annoncé par la bouche du prophète Jérémie. Daniel savait quoi prier. Et c'est pour ça qu'il était sur ses genoux devant Dieu dans la prière. Et il prie sans doute pour que Dieu intervienne, pour que Dieu se glorifie dans la vie de son peuple, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Peut-être il prie aussi pour qu'il puisse comprendre, mieux comprendre ces visions que Dieu lui avait données. En tout cas, on voit dans ce passage que Dieu a bien entendu les prières de Daniel. Verset 12, il m'a dit, donc l'homme lui a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Je ne sais pas s'il y a aussi une relation entre les 21 jours de combat et les 3 semaines de jeûne de Daniel. En tout cas, on voit que les prières de Daniel ne passent pas inaperçues. Les prières sont efficaces. Cet homme qui est peut-être un ange de Dieu, peut-être Dieu lui-même, peut-être Jésus-Christ, est venu à cause des prières de Daniel. Ce guerrier est venu et va montrer à Daniel ce qui va se passer à l'avenir. Et ensuite, cette connaissance de ce qui va se passer à l'avenir va encore plus alimenter les prières de Daniel. Grâce à cette vision, Daniel va savoir comment prier pour son peuple. Comment prier pendant ces heures sombres à venir. Il pourra prier que son peuple n'oublie pas Dieu. Que son peuple connaisse Dieu. Que son peuple soit enraciné dans sa parole, dans ses promesses. Que son peuple puisse résister à la tentation, qu'il puisse tenir bon dans les belles. Dieu veut qu'on soit en soi au clair. Il veut qu'on soit clair, archi clair, que dans ce combat, c'est lui-même Dieu. C'est Jésus qui est notre champion. Focalisé sur les démons ou les choses comme ça, mais focalisé sur notre champion Jésus. Et ensuite, Dieu nous montre par Daniel que notre place est dans la prière. Je pense pas qu'il faille dire à la lumière de toutes les Écritures qu'il n'y a que ça à faire dans ce combat, que la prière. Mais en tout cas, Dieu dans ce passage met l'accent là-dessus. Il nous donne le privilège aussi d'annoncer sa parole. Daniel a sans doute annoncé sa parole. Mais ici, on a l'accent sur la prière. Dieu souligne la puissance de la prière d'un juste qui lui fait confiance. C'est pour ça que notre réunion de prière, si vous pouvez venir de temps en temps, une fois dans le mois, est si importante. On a besoin de prier pour le ministère de l'Église. On a besoin d'être sur nos genoux pour prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour que sa parole soit entendue, pour qu'elle ne revienne pas sans effet, mais pour que des gens, des rebelles, fléchissent le genou devant Jésus. C'est pour ça que nous avons aussi ce calendrier de prière. La prière derrière les lignes est vraiment importante. Dans un commentaire que j'ai lu dans la semaine, l'auteur Sinclair Ferguson cite l'exemple d'une vieille dame dans une église que j'ai connue quand moi j'étais étudiant en Écosse. Cite l'exemple d'une qui, dans sa jeunesse, avait été bien active dans pas mal de ministères parmi la jeunesse. Mais cette femme, dans sa vieillesse, elle a raconté que Dieu avait mis sur son cœur de prier pour sa ville, c'est la ville d'Aberdeen, et de prier aussi que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel et que Dieu suscite un pasteur qui par lequel des choses, de bonnes choses pouvaient venir. Arriver dans cette église et dans cette ville. Et là, elle a vu l'exaucement de sa prière. Parce qu'en effet, Dieu a suscité un pasteur dans son église qui a eu un ministère remarquable qui a duré des décennies. Son ministère a touché plein de gens. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été formés, beaucoup de missionnaires qui ont été envoyés. Comme moi, je l'ai vu quand j'étais étudiant, il était vraiment âgé, il avait peut-être 80 ans, il était encore le pasteur, il prêchait assis avec un micro, tellement il était frêle. En tout cas, Dieu, dans sa bonté, a suscité la prière, dans ce cas, les prières de cette vieille dame. C'était une prière pour sa gloire, une prière en faveur de son peuple, et il semble que Dieu a répondu favorablement à cette prière. dans la prière sur nos genoux, dans la dépendance de Dieu, par la foi, nous sommes bien actifs dans cette bataille. Même si le seul champion, c'est Dieu, Jésus. L'épître de Jacques nous dit « La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Ce n'est pas juste la question d'être fervent. Il faut un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui le connaît. Un cœur qui est soumis à lui. Un cœur qui s'aligne sur sa gloire, sur ses projets, sur sa volonté. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure du chrétien, il ajoute à la fin, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Quand nous découvrons ce que le chapitre 11 a à nous dire dans quelques semaines, on va voir la pertinence de cette exhortation. On a besoin, vraiment besoin, de prier pour tous les saints. Mais je pense qu'on voit déjà la pertinence. On a commencé en parlant de l'Église persécutée, en Corée du Nord par exemple. On a parlé aussi des moments où le mal semble nous accabler. Nous avons besoin de savoir que oui, il y a un vrai combat spirituel dans les lieux célestes. Parfois ça nous échappe, mais on a besoin de le voir, d'en prendre conscience. On a surtout besoin de voir que dans ce combat, on a un champion puissant, beaucoup plus puissant que les forces du mal. Un champion qui a déjà remporté la victoire. Et on a besoin des prières de nos frères et sœurs. C'est comme ça que Dieu choisit de nous protéger. C'est comme ça que Dieu choisit d'agir. On a besoin de nous confier en Dieu dans la prière. De prier pour nos frères et sœurs. C'est un peu aussi comme Jésus nous a enseigné de prier dans le Notre Père. Ne nous conduis pas à la tentation, mais protège-nous du mal. Je vous invite à la prière, on va prier. Notre bon Père Céleste, on est parfois si attristé par ce monde qui nous entoure, avec tellement de choses méchantes qui se passent. Mais parce qu'on vit dans une société si rationaliste, si je puis dire, on a parfois du mal à nous rappeler qu'il y a aussi une spiritualité, une réalité spirituelle, un combat spirituel. Notre Père, donne-nous de voir ça, de ne pas l'oublier. Donne-nous aussi de ne pas nous focaliser là-dessus, mais de nous focaliser sur Jésus, sur notre champion, sur celui qui est beaucoup plus fort. Donne-nous de ne pas nous préoccuper de tout ce qui est maléfique, mais vraiment de nous centrer sur Jésus. Et Père, nous voulons également te demander de nous protéger. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin d'une vision renouvelée de ta personne pour tenir bon. Et Père, nous voulons également intercéder ce matin pour les chrétiens de par le monde qui passent par des moments extrêmement difficiles au Moyen-Orient, en Corée du Nord, au Nigeria, ailleurs. Père, nous voulons te demander vraiment dans ta miséricorde, par ta grâce, renouvelle leur vision de Jésus. Prions Seigneur qu'ils puissent vraiment voir qu'il est le plus fort et qu'il est bon, vraiment bon, le prêtre qu'il nous faut. Et Père, donne-nous d'être fidèles dans la prière. Nous avons parfois du mal à prier. Donne-nous d'être fidèles dans la prière pour l'Église persécutée et aussi les uns pour les autres, pour que nous puissions tenir bon dans ces jours mauvais. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.